Le dernier amour, 9. Tonino partait comme je rentrais. Il me fit, comme de coutume, des adieux enjoués et tendres. « Eh bien, lui dit Félicie, tu ne l'embrasses pas, ton père ?» Il m'appelait son père. Il m'embrassa. Je pensais à la légende du baiser de Judas. Je me laissai embrasser. Je m'absentai le lendemain. Sous prétexte de nouvelles observations sur le cours des eaux de neige, j'allais réfléchir et essayer de me reposer à la quille. J'étais fatiguée, comme si j'avais fait le tour du monde. L'enthousiasme de la veille était trop surhumain pour être durable. Il fallait payer mon tribut à la nature. J'eus de terribles accès de fièvre, du chagrin amer, des colères dévorantes, des indignations à tout briser. Je fus exaspérée, je fus abattue. Deux jours et deux nuits se passèrent ainsi. Le troisième jour, je fus calme et je dormis. Il fallait prendre un parti au plus vite. Deux fois, Félicie, inquiète de mon absence, était montée à mon chalet. Deux fois, la voyant arriver, je m'étais soustrait à l'angoisse de sa présence en me réfugiant dans des retraites inaccessibles. Je ne voulais pas me venger sur sa santé et sur sa vie. Je ne voulais pas exploiter ses remords ou ses craintes. Cela ne m'eût point semblé digne d'un homme. Je ne pus arrêter qu'un plan provisoire. Avant de disposer de mon avenir et de celui de ma femme, il me fallait connaître tous les détails de notre situation, me rendre un compte exact de la vérité et prononcer dans ma conscience sans erreur et sans défaillance. Interroger Félicie n'était pas le moyen de saisir le vrai. Elle savait mentir, je n'en pouvais plus douter. Et, quand même j'arriverais à lui arracher la confession complète des faits, jamais elle ne pourrait m'en faire saisir les vraies causes. J'avais bien constaté qu'elle manquait de logique. Je n'avais plus à m'étonner qu'elle manquât de conscience. Soumettre son complice à un interrogatoire, c'était ouvrir la porte aux plus absurdes romans et aux drames les plus lâchement ridicules. Plutôt que de me commettre moralement avec ce drôle, j'aurais accepté encore l'outrage de ses caresses. Plus il s'avilissait lui-même, moins il pouvait m'avilir. Je retournai donc à la diablerette, résolu à ne rien laisser pressentir, jusqu'au jour où je tiendrai tous les fils de la trahison. Ils ne s'écrivaient probablement pas, mais ils avaient dû s'écrire. Tout à coup, je me souvins que peu de temps après notre mariage, Félicie m'avait remis une petite liasse de papier soigneusement cachetée, en me faisant jurer sur notre mutuelle confiance que je ne l'ouvrirais que si elle mourait avant moi. J'avais pensé que c'était un testament, et, résolu à ne jamais l'accepter, je l'avais serré sans y attacher d'importance. Quelquefois, je m'étais pourtant dit que ce pouvait être un récit confidentiel de sa première faute, et, comme je ne m'étais pas engagé à le lire, je comptais ne jamais remuer les cendres d'un passé que mon amour avait anéanti, à moins que Félicie ne m'en reparlât expressément. Elle ne m'en avait pas reparlé. Maintenant, ma pensée pouvait admettre d'autres suppositions. Les femmes de ce caractère ont des besoins passionnés d'expansion qui ne sont que le besoin d'encourager leurs fautes ou de poétiser leurs vices. Ces papiers pouvaient avoir trait à la découverte que j'avais cru faire, que j'avais probablement faite dès les premiers jours. Ils m'appartenaient. J'avais juré par quelque chose qui n'existait plus, que l'on avait foulé aux pieds, ma confiance. Je n'eus pas de scrupules, je brisai le cachet. C'était la courte et énergique correspondance de Tonino et de Félicie à partir du voyage de Tonino en Italie, plus d'un an avant notre mariage. Je traduis de l'italien. De Félicie. Oui, je l'aime. Oui, c'est de l'amour. C'est de l'adoration que j'ai pour lui. Puisque tu veux le savoir, sache-le. Je vois bien que tu ne me laisseras pas tranquille que je ne t'ai dit la vérité. Après, que diras-tu encore? Toi, je ne t'aime pas. Je ne t'ai jamais aimé, tu le sais bien. Faut-il te le répéter éternellement? De Tonino. Eh bien, je le tuerai, ton Sylvestre, et ce sera ta faute. Je l'aimais, tu me le fais haïr. Oui, il est grand, il est bon, et il est parfait, je le sais. Mais tu le condamnes à mort. Je t'aime, moi. Est-ce que tu es assez folle pour l'oublier? Est-ce que tu ne me connais pas? Est-ce que tu ne sais pas ce que je veux? Il faut le vouloir. De Félicie. Alors, si tu es un fou et un assassin, dis-le tout de suite, car il faut que je meure. Si dans 3 jours je ne reçois pas de lettre de toi, je me tuerai. De Tonino. La vie de Sylvestre est dans tes mains. Sois au rendez-vous que tu sais, le 5 à 1 heure du matin. Du même. Tu as vaincu le tigre, tu l'as enchaîné, tu l'as bien fait souffrir, cruel, mais tu lui as laissé l'espérance. Ah oui, tu m'aimes, va. Tu as beau le nier, ta colère fond dans mes bras. Tu repousses mes baisers, mais tes mains, tes genoux, tes épaules sentent mes larmes, et ces larmes-là finiront par te brûler. Aime-moi donc, folle. Est-ce que tu peux t'y soustraire? Est-ce que tu ne l'as pas voulu? Est-ce que tu ne m'as pas élevée sur ton cœur comme un oiseau tombé du nid à qui tu donnais ta chaleur et ta vie? Un inceste? Allons donc, cousine. Le pape a des dispenses, et le ciel rit de tes scrupules. Tu veux me faire croire que nous pouvons être la mère et le fils. C'est bon pour ces lourds protestants ou pour ces catholiques à sang-froid qui habitent le pôle. Nous sommes des Italiens, nous, des êtres vivants, ardents, complets. Moi, je n'ai jamais voulu t'appeler ma mère, et je ne t'appellerai jamais que ma vie. Mais j'ai bien voulu boire tes caresses. J'en ai été nourrie, enivrée, depuis que j'ai souvenance de moi-même. C'est là l'amour, il n'y en a pas d'autre. Tu n'aimes pas. Tu n'aimeras jamais, Sylvestre. C'est un vieillard, c'est un père, lui. Très bien, qu'il reste près de toi. Vénère-le, adore-le comme une image de saint. Je veux bien, ça m'est égal. Mais ne l'épouse pas, je te le défends. Du même. Tu m'aimes et tu m'aimeras. J'ai consenti. Épouse-le puisque tu le veux. Ambitieuse, il te faut 2 amours. Un pour l'esprit, un pour le cœur. J'aurai le bon, moi. J'aurai celui que je veux. Il le faudra bien. Patience. De Félicie. Non, 100 fois non, tu n'auras pas l'amour que tu veux de moi. Quand même je succomberai au trouble où tu me jettes avec tes folies, cela ne prouverait pas que je t'aime. Quel plaisir trouverais-tu à me voir pleurer et mordre la terre? Ah, je te le jure, je me tuerai après. Oublie-moi, ne reviens jamais. Quel mal tu me fais! Est-ce là la récompense d'un amour de mère? Oui, je ne voyais en toi que mon enfant. Mon enfant. Avoir un enfant qui m'aime comme ma fille m'eût aimé. C'était mon rêve, et c'était si naturel. Pouvais-je deviner qu'à peine assez grand pour atteindre mon coude, tu avais déjà de mauvais instincts? Souviens-toi, quelle colère, quel chagrin, quelle honte j'ai eue quand pour la première fois tu as osé me dire que tu voulais être mon mari. J'aurais dû te chasser. Je n'ai pas eu de courage. Je m'étais habituée à t'aimer. Et puis, je n'aimais pas Sixte. Je ne voulais de lui ni d'aucun autre. Je te voyais fou avec des convulsions, l'écume aux lèvres. J'ai cru que tu allais mourir. Je t'ai promis de ne me marier jamais. Tu es dissimulée, tu as fait semblant d'être guérie. Et tu as passé des semaines et des mois sans me donner de nouvelles inquiétudes. Et puis, un beau matin, tu étais plus dangereux que jamais. Et cela a toujours recommencé et finit par revenir toujours, cette folie, jusqu'au jour où je t'ai chassé. Et à présent que j'aime quelqu'un qui est pour moi comme un dieu, tu crois que je ne te briserai pas si tu prétends détruire mon bonheur et me rendre indigne de lui? Essaye, il saura tout. Nous verrons alors si tu oseras reparaître devant lui. Prends garde, je lui dirai que tu as menacé sa vie, que j'ai été à ce rendez-vous pour t'empêcher de faire un malheur. Je lui raconterai toutes tes sottises, tes pensées criminelles. Il te fera arrêter et mettre en prison. C'est tout ce qu'on doit à un enfant ingrat et dénaturé comme toi. » De Tonino, à 2 mois d'intervalle après la mort de Jean. « Ma chère cousine, après le malheur qui nous a frappés, je serais bien coupable si je n'abjurais pas entre vos mains mes folies et mes colères d'enfant. Pardonnez-les-moi, oubliez-les et recevez-moi en grâce, votre enfant soumis et dévoué. » Du même, après le mariage de Tonino avec Vanina. « Ma cousine, je suis le plus heureux des hommes, et je fais des vœux pour M. Sylvestre et pour vous. Il est le meilleur des pères, comme vous êtes la plus généreuse des amies. Je n'ai pas toujours été digne de vos bontés. Pardonnez-moi le passé, et bénissez ma chère petite femme qui vous chérit. » Du même, 1 an plus tard. « Félicie, je suis heureux, j'ai un fils depuis 2 heures. Il s'appelle Félix. Le second s'appellera Sylvestre. Vous êtes mes 2 anges gardiens. Chère femme, patiente et tendre, tu m'as sauvée de moi-même. Grâce à toi, je serai un homme de bien, comme celui à qui tu as dévoué ta vie. Aime-moi comme je t'adore. » Ici finissait ce recueil sans date, mais rangé en ordre et par chiffres. C'était le premier acte du drame qui m'enveloppait. Il ne m'apprenait que ce que j'avais pressenti dès le début, ce que Félicie m'avait laissé entrevoir, sans oser compléter ses confidences. En s'attachant au sens littéral de ces écritures spontanées, il n'y avait point de tort direct envers moi. Tonino pouvait se dire emporté par une passion aveugle qu'il avait vaincue et qu'il abjurait à mes pieds. Félicie pouvait se dire qu'elle avait triomphé du danger après s'y être exposée pour sauver ma vie, et que son amour pour moi n'avait pas été obscurci un seul instant dans son âme. Voilà pourquoi elle m'avait légué ses preuves de son innocence. Mais pour qui analyse et approfondit, il n'est point de vraie chasteté dans certaines épreuves. Et entre ce que j'avais supposé des vagues et timides désirs de Tonino et la passion sensuelle qu'il avait osé tant de fois déclarer et dépeindre, je découvrais un abîme. Cette passion datait de son enfance. Félicie avait eu à la réprimer et à la combattre durant de longues années. Elle l'avait redoutée et ménagée. Elle en avait eu peur, non seulement pour moi, mais pour elle-même. Une de ses lettres admettait clairement la possibilité d'y succomber. Et à travers des réprimandes et des menaces d'une puérilité presque risible, elle trahissait le trouble des sens et l'effroi de la chute. Ce n'est pas ainsi qu'une femme de cœur et de bien arrive à se faire respecter. Elle doit savoir se préserver et n'avoir jamais besoin de se défendre. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire d'avoir reçu une éducation recherchée pour repousser l'amour qui offense ou déplaît. L'instinct et la sincérité suffisent. Une paysanne ne sait pas dire de ces mots qui glacent et répriment. Elle frappe de ses poings et de ses sabots celui dont elle ne veut pas faire son ami. Félicie n'avait été ni la robuste virago qui échappe au baiser par une gourmade sérieuse, ni la femme pudique à qui l'on n'exprime pas 2 fois des désirs outrageants. La fièvre de Tonino s'était allumée en elle depuis longtemps déjà, quand elle m'avait aimé d'une affection plus digne et plus morale, mais déjà souillée par des appétits secrets, d'une âpreté invincible et fatale. Jusque-là pourtant, je n'avais pas le droit de m'indigner. Je souffrais et je rougissais de ce partage des sens. Mais j'avais déjà, devant quelques aveux de Félicie, subit cette rougeur et cette souffrance. Pourquoi n'avais-je pas poussé plus avant l'examen de sa situation et de son caractère? J'avais craint de l'outrager, je l'avais trop respectée. En la voyant inquiète et blessée, j'avais accepté des réponses évasives. Si je n'avais pas été mieux éclairée, c'était ma faute. Il ne faut jamais s'en prendre aux autres des fautes que l'on commet, même quand ce sont des fautes généreuses. Que s'était-il donc passé depuis que cet amour de Tonino pour sa cousine avait paru prendre fin dans les bras de Vanina et dans le sourire de son premier enfant? Rien, peut-être. Allons donc, On m'avait menti, on s'était caché de moi. Donc, on était coupable, et cette fois, criminel, car on s'était indignement joué de ma bonne foi. On m'avait témoigné de part et d'autre une affection ardente, on s'était vanté de dévouement sublime. J'étais la plus risible idole qu'on eût jamais encensée et parée de fleurs pour lui cracher à la figure. Il fallait pourtant le savoir, ce qui s'était passé. J'étais résolue à le savoir, pour apprécier le degré d'indulgence ou de sévérité dont j'avais à faire usage. Ah, que j'étais peu fait pour ce métier d'espion, et quel dégoût insurmontable il me causait. C'était le devoir, je me soumis. Je me mis à explorer le rocher où j'avais failli surprendre le rendez-vous. Je découvris une grotte bien enfouie où l'on pénétrait par la voûte crevassée du massif. Monter au faîte de cet édifice naturel et descendre dans l'intérieur par la corniche était une entreprise assez difficile et périlleuse. Félicie n'avait pas reculé devant l'effort et le danger. Une crypte bien abritée avait caché la honte de ses adultères amours. Un rayon de soleil venait s'éteindre brusquement au seuil. Un éboulement de sable fin, tamisé par le vent, dessinait un méandre à l'entrée. Et il fallait marcher sur ce sable pour gagner l'endroit obscur et fermé à tous les regards. Avant d'y poser le pied, je l'examinai attentivement. J'y vis la trace toute fraîche d'une chaussure d'homme. Tonino était donc là, et il attendait sa complice. Il ne s'inquiétait pas de m'avoir vu rôder une fois aux alentours. Il ne se disait pas que j'avais pu les apercevoir et concevoir des soupçons. Il fallait que leur faute fût ancienne, et que leurs entrevues fussent fréquentes pour qu'il y eût tant d'effronterie et de confiance dans l'impunité acquise. Je les tenais là, tous deux peut-être. Où j'allais les tenir dans un instant. Mais je ne voulais pas encore les briser. Aussi je fus content lorsqu'à la place de Tonino, je vis Sixte Mort sortir de la grotte et venir à ma rencontre. « Enfin, vous y voilà !» me dit-il avec amertume. « Vous avez trouvé leur piste et vous savez la vérité. Mais vous venez trop tard. Eux, ils n'y viennent plus. Moi qui connaissais cette grotte, et qui croyais être seul à la connaître, car c'est ici chez moi. Je voulais les y surprendre, leur faire honte, ameuter le pays contre eux. Vous aviez refusé de faire vos affaires vous-même. J'ai guetté tous les jours de cette semaine. Ils se sont doutés de quelque chose. Ils n'ont pas reparu, et c'est ailleurs qu'il faut les chercher. Je chercherai. Je vous le défends. C'est votre droit, si vous voulez vous venger. Autrement, je garde le mien. Comment ferez-vous pour m'empêcher de l'exercer? Dans votre monde, on se bat en duel, je crois. Nous ne connaissons pas cela, nous autres. Je ne veux vous faire aucune insulte et aucun mal. Si vous m'en faites, je m'en défendrai comme un homme qu'on attaque, et ce sera au plus fort d'assommer l'autre. Je sais que vous n'êtes pas un freluquet, mais je suis solide aussi, et aucun homme ne me fait peur. Vous voyez donc bien qu'il faut raisonner avec moi et ne pas essayer de commander. Ce serait ce qu'il y a de plus inutile. Raisonnons donc, maître Sixte. Reconnaissez-vous qu'un homme, trompé ou non, ait le droit d'empêcher un étranger de faire justice à sa place? Oui, s'il fait justice lui-même. Et qui sera juge de cette justice? Le chef de famille ou l'étranger? Sixte hésita. Il était intelligent. « Monsieur Sylvestre, reprit-il, tout le monde est juge de tout le monde. Vous ne pouvez pas empêcher l'opinion. » Il avait raison, j'en convins. Mais il dut convenir aussi que l'opinion peut être égarée et que le devoir de tout honnête homme est de juger sans passion et sans prévention. « Je suis un honnête homme, dit-il avec orgueil. Mes préventions sont fondées. Si vous vous conduisez en chef de famille ferme et clairvoyant, je me tiendrai tranquille. Mais si vous êtes faible, je penserai que vous êtes un mari complaisant, et vous ne m'empêcherez pas de le dire. Vous avez voulu être le maître de Félicie Morgeron. Ce n'était pas la chose du monde la plus facile. Et tout instruit que vous êtes, vous n'avez pas su en faire une honnête femme. Peut-être qu'un ignorant comme moi l'eût mieux gouverné. J'ai donc le droit de vous critiquer, et je vous critiquerai en face. Attendez-vous à cela, si vous ne vengez pas votre honneur et votre amour-propre. Car moi aussi je suis ridicule d'avoir tant aimé cette femme et de me l'être laissée enlever. Je veux qu'on sache qu'elle est méprisable et que je la méprise. « Eh bien moi, répondis-je, fût-elle méprisable, je ne veux pas qu'elle soit méprisée. Si j'ai une vengeance à exercer, ce ne sera pas celle-là, et je vous empêcherai de l'outrager et de la diffamer. Vous me forcez à prendre un parti extrême, le voilà pris. Comptons ensemble. Qu'est-ce que vous ferez contre moi ? Je vous tuerai, maître Sixte, répondis-je avec le plus grand calme. Vous me tuerez ? Probablement. Je vous dirai devant témoins que vous en avez menti, et je vous frapperai s'il le faut, sans haine ni colère, mais jusqu'à ce que mort s'en suive de part ou d'autre. Voyez si, pour satisfaire votre dépit et votre rancune, vous voulez mettre votre vie dans le danger le plus inévitable et le plus sérieux. Croyez-vous me faire peur ? Si je croyais vous faire peur, ma menace serait lâche. Je sais que vous êtes tout aussi peu poltron que moi, mais je sais aussi que pour le plaisir de faire une mauvaise action, un homme qui a du cœur et de la raison ne s'expose pas à tuer ou à être tué. Vous réfléchirez à ce que je vous dis, maître Sixte. C'est à prendre ou à laisser, et c'est mon dernier mot. Vous êtes un homme étonnant, reprit-il après avoir rêvé un instant. Je vois que vous êtes décidé à faire ce que vous dites, et je me demande pourquoi vous agissez ainsi. Je ne comprends pas. Si vous êtes calme, je pourrais me faire comprendre. Parlez ! Veuillez vous souvenir de l'amitié qui me liait à Jean Morgeron, de la confiance qu'il m'avait témoignée, des devoirs que sa mort m'a imposés. Sa sœur avait commis une faute, il la lui avait pardonnée, il l'avait protégée envers et contre tous, et il l'avait ainsi aidée à se réhabiliter. Ce que Jean Morgeron avait fait pour sa sœur, je dois ne jamais l'oublier et le continuer autant que possible, car avant d'être son mari, j'étais son frère. C'est comme tel que j'étais entré dans la famille. « Cela, c'est vrai, mais pardonnez, est-il possible que vous pardonniez ce qui se fait maintenant contre vous ?»« Si cela était, je n'ai pas dit que je le pardonnerais dans mon cœur, ceci ne regarde que moi. Mais je le pardonnerais peut-être en apparence, si ma conscience me le commandait. Or, je vous déclare que je ne veux prendre aucun parti avant de savoir si vous n'avez pas cherché à me tromper. Et comme je ne veux m'en rapporter qu'à moi-même pour découvrir la vérité, tout ce que vous me direz sera comme non avenu. Renoncez donc à m'éclairer de vos lumières. Vous me savez honnête homme, et vous osez dire que je cherche à vous tromper ? Vous m'insultez ! Non, Sixte, la passion, et le dépit est une passion violente, fait croire et dire des choses qu'on se repent plus tard d'avoir dites ou pensées. Il est peu d'honnêtes gens à qui cela ne soit pas arrivé au moins une fois dans la vie. Voyons, souvenez-vous de notre entretien de la semaine dernière, ici près. Vous m'avez dit le pour et le contre. Vous étiez ému et même un peu égaré. Vous veniez de voir, ensemble ou séparément, deux personnes dont l'intimité, innocente ou coupable, vous a toujours été amère. Vous avez supposé le mal, et pourtant vous ne l'avez pas constaté, car vous me disiez « Je n'aime plus le souvenir de Mademoiselle Morgeron ». Et un instant après, vous disiez « Je ne l'aimerai plus si je découvre le crime dont je la soupçonne ». Aujourd'hui encore, vous avez tenu à peu près le même langage. Et nous parlerions 2 heures sans faire autre chose que de raisonner ou de déraisonner sur une supposition de votre esprit ou du mien. Ou du vôtre ? Vous mentez, monsieur Sylvestre. Que le mot ne vous fâche pas. Vous mentez par un bon motif. Vous croyez devoir mentir, mais vous ne doutez pas de la faute. Sans cela, vous ne seriez pas ici. Pourquoi pensez-vous cela, puisque vous y êtes également ? Ah, vous êtes plus fin que vous n'en avez l'air. Vous voulez me faire dire ce que je sais.
Je vous ai défendu de me dire quoi que ce soit.
C'est-à-dire que vous ne voulez pas m'en savoir gré. Mais si je vous le disais malgré moi, vous seriez content. Eh bien, prenez que c'est malgré moi. Mes bergers ont vu, il y a déjà un an, votre femme et Tonino venir ici. Il y a donc un an qu'on vous trompe.
Voilà une pauvre raison pour le croire. Venir ici ne constitue pas un crime contre moi.
Le saviez-vous ?
Apparemment, puisque je n'ai pas eu de soupçon.
Et lundi dernier, votre femme vous a-t-elle dit qu'elle y fût venue ?
Comment aurais-je découvert cette grotte si elle ne me l'eût indiquée ?
Vous avez réponse à tout. Allons, je patienterai. Je ne divulguerai rien encore, mais vous voilà averti. Je vous donne un mois pour savoir et pour agir.
Et moi, je vous donne tout ce temps-là pour réfléchir à ce que je vous ai dit.
Vous me tuerez si je parle ?
Ou vous me tuerez, mais ce sera un combat de sauvage entre nous.
Vous êtes trop philosophe ou trop humain pour tuer votre femme ou votre rival. Et vous n'aurez pas de scrupules à menacer ma vie, à moi qui veux sauver votre honneur ?
Vous m'avouerez, lui dis-je en riant, que le jour où vous feriez un éclat, je serai quitte de la reconnaissance que vous réclamez aujourd'hui. Chacun, d'ailleurs, garde son honneur et celui de ses proches comme il l'entend, du moment qu'il n'y a pas de loi pour le protéger.
Des lois ? Il y en a ! Faites-moi un procès en calomnie.
Pour ébruiter vos insultes et donner à la malignité publique un éternel sujet de gaieté ou de provocation contre moi ?
Eh bien, si j'allais dire partout aujourd'hui que vous m'avez menacé de me tuer ? Si j'allais en prévenir l'autorité pour me mettre sous sa protection, pensez-vous que vous auriez réussi à endormir l'opinion en cherchant à m'intimider ?
Il faut donc que je vous tue ou que je me fasse tuer tout de suite, répondis-je.
Je n'étais pas préparée à cela, mais peu importe, puisque votre folie, votre haine ou votre obstination me met ici le couteau sur la gorge.
Défendez-vous, maître Sixte. Nous ne sommes armés ni l'un ni l'autre. Personne ne nous voit. Nous allons nous étreindre et lutter ici, jusqu'à ce que l'un de nous ait étouffé l'autre.
Parlez-vous sérieusement ?
Vous m'attaquez, il faut bien que je me défende.
Je vous attaque, moi ?
Vous me déclarez que vous êtes décidé à déshonorer ma femme, et moi par contre. Car si je vous laisse sortir d'ici, rien au monde ne pourra vous en empêcher. Il faut bien que je vous en empêche tout de suite.
Et je vous ai donné un mois.
À la condition que, dans un mois, je verrai par vos yeux et agirai selon vos idées. Je ne veux pas m'engager à cela. Battons-nous sur l'heure, ou jurez-moi que vous ne parlerez jamais, quelque chose que je dise et que je fasse.
Se battre ici, sans jour presque, et presque sans air, sans espace aussi. C'est un suicide à deux, monsieur Sylvestre.
Les chances sont égales. Ôtez votre habit comme j'ôte le mien.
Allons, s'écria Sixte en bondissant. Si je reculais, vous croiriez m'avoir fait peur, et je ne veux subir les commandements de personne. Je suis un homme riche et considéré. Je ne permettrai pas qu'un monsieur me prime dans le pays. Battons-nous, et malheur à vous qui l'avez voulu.
Nous nous primes à bras-le-corps.
« Attendez » dit-il sans me lâcher. « Le plus fort poussera l'autre où il pourra. »
« C'est convenu. » Il laissa retomber ses bras. Il était pâle.
« Mourir sans sacrement, ça vous est égal ?»«
Je suis en état de grâce. »
« Jurons-nous au moins que celui qui tuera l'autre ne laissera pas son corps aux vautours et aux aigles. »
« Au contraire. » J'exige que vous laissiez mon corps où il tombera, et que vous vous sauviez. » Il ne pouvait me refuser une chance dont il pouvait profiter. Il se remit en posture de combat et tenta de me frapper. Je paralysai son bras sans lui rendre l'appareil. Alors,
voyant que je n'en viendrais là qu'à la dernière extrémité, il n'osa plus s'écarter des règles de la lutte. Malgré sa force et son courage, il était très ému. Et, saisi par l'impression sinistre du lieu où nous nous trouvions, il avait dans le regard je ne sais quoi de lugubre et de terrifié. Je vis bien vite qu'il était perdu si je le voulais, et je le ménageai, cherchant à lui faire sentir ma supériorité sans en abuser. Au bout d'un instant, il tombait assez rudement et je le tenais sous moi. Je lui serrai la gorge sans colère, et comme il ne demandait pas grâce, je la lui offris. « À quelles conditions ? » dit-il en bégayant de chagrin et de honte. « À la condition que vous ne parlerez jamais de ma femme ni de moi, en bien ni en mal. » Il le jura. Je l'aidai à se relever et à se rhabiller. Il était abattu et comme abruti. Il me suivit machinalement dehors jusqu'à une petite source où il but à plusieurs reprises. Quand je vis qu'il n'avait aucune contusion grave, puisqu'il avait tous les mouvements libres, et que le ton violacé de sa figure s'effaçait sous la salutaire fraîcheur de l'eau, je le quittai. Il me rappela, et en me retournant, je vis qu'il pleurait. J'allai vers lui. « Vous m'avez humilié, » dit-il. « Oh, bien humilié !»« Vous vouliez que je le fusse par vous. Le sort a décidé. »«
Le sort ? Oui, c'est cela. Je n'avais pas ma force aujourd'hui. L'idée d'être mangé au chien ou au loup. »
Vous ne voulez pas avouer que cela fait quelque chose aussi de n'avoir pas la bonne cause.
Je n'ai plus rien à dire. Vous pouviez m'achever. Nous n'étions pas convenus de faire grâce.
C'était sous-entendu de part et d'autre.
Monsieur Sylvestre, vous valez mieux que moi. Adieu. Je sais à présent que si vous laissez vivre Tonino, ce ne sera pas couardise. Je tiendrai ma parole. Vous pouvez être tranquille. Mais je n'ai pas promis de ne pas tuer Tonino. Et gare à lui si je le trouve dans mes jambes, pour quoi que ce soit. Allez-vous-en. J'ai du chagrin d'avoir été humilié. Il faut que je pleure.
Je m'en allais, très calme, et aujourd'hui encore, quand je me souviens d'avoir failli étrangler un homme, un peu méchant, il est vrai, mais non sans valeur morale et sans honneur instinctif, je ne me repens pas. J'avais bien réfléchi avant de contracter un second mariage. Je m'étais dit, comme la première fois, qu'il n'y a pas à jouer avec le serment par lequel on s'engage à protéger une femme. Il est profond, il a une mystérieuse extension, ce mot de protection que l'homme prononce et signe souvent sans en peser toutes les conséquences. Protéger, c'est défendre, préserver et venger. Sous la lettre de ce mot légal, il y a un sous-entendu qui en développe l'esprit jusqu'à l'illégalité. Plutôt que de laisser outrager sa femme, on doit tuer l'insulteur. Et comme avec un mot elle peut être souillée, il est des cas où l'on peut être meurtrier pour un mot. Cela devient un cas de légitime défense que la loi n'a pas prévu officiellement, mais que le juge serait bien embarrassé parfois de condamner. Félicie avait cessé de mériter cette protection de ma part. Étais-je pour cela dégagé de mon serment ? Non. Elle seule pouvait m'en délier en m'abandonnant pour se donner publiquement un autre protecteur. Et comme elle ne pouvait le faire sans ma permission, comme je ne pouvais pas la lui donner sans manquer à mes devoirs, nous n'étions libres ni l'un ni l'autre d'accepter le contrôle de l'opinion. Or, l'opinion est acharnée. Sixte More, avec son caractère aigre et sa personnalité opiniâtre, résumait d'avance, je le voyais bien, la lutte que j'allais avoir à soutenir contre toute la contrée, si je laissais ébruiter ce qu'on allait appeler ma honte. Les coupables qui m'exposaient avec une lâche témérité à cette lutte formidable, y avaient-ils songé? Je mesurais l'étendue de ma tâche. J'étais prêt, mais, pour rendre le péril moins imminent, je devais porter une grande prudence dans mes investigations. En suivant les traces, en épiant les rendez-vous,
Je pouvais être épié et suivi moi-même. C'est l'inquiétude et l'impatience des jaloux qui éclairent et ébruitent ce qu'il faudrait envelopper d'ombre et de silence.
Je fus très patient, très maître de moi. J'avais la certitude d'arriver à la connaissance entière des faits si je ne me laissais pas surprendre par l'indignation. J'avais affaire à deux êtres profondément habiles à dissimuler. Mais je ne crois pas qu'il soit possible de tromper une personne qui ne veut pas être trompée, et qui, froide, attentive, pétrifiée pour ainsi dire à son poste d'observation passive, ne laisse échapper aucun indice, saisit un regard, commente un mouvement, s'empare d'un souffle, dissèque une ombre, et tout cela sans qu'on se doute de l'impassible contention de son esprit, sans que l'on soupçonne à quel degré de finesse sont arrivées ses facultés de perception. Je rendais de temps en temps visite à la Vanina. Je ne rendis pas mes visites plus fréquentes, mais je les mis à profit pour observer ce qui se passait dans son intérieur. Elle eût été volontiers jalouse, car elle aimait son mari avec passion, mais elle n'avait aucun soupçon, aucune inquiétude sur son compte. Elle ne doutait pas que Félicie n'eût été éprise de lui, et, fière de l'avoir emportée sur son ancienne patronne, elle vivait encore dans l'ivresse de son triomphe. Elle aimait Félicie quand même, elle la respectait toujours comme une supériorité intellectuelle et sociale. Mais elle était trop naïve pour ne pas laisser voir à moi et à Félicie elle-même qu'elle ne la craignait pas. Je les vis ensemble, et un voile tomba de mes yeux. Félicie la détestait. Vanina était bonne et confiante, un peu vaine et un peu bornée. Elle remerciait franchement Félicie d'avoir fait son bonheur, et puis elle avait un sourire enfantin qui semblait lui dire, et qui lui disait en effet, « Vous n'eussiez pas pu l'empêcher. » À ce sourire, Félicie répondait par un sourire terrible, affreux, que Vanina ne comprenait pas. Il devint clair pour moi que la rivale de Vanina avait horriblement souffert de voir Tonino épris de cette pauvrette, et que, le jour où Tonino avait dû lui dire « Je n'ai jamais aimé que toi », elle avait été enivrée et séduite. Vanina était heureuse, elle était riche, et la maternité l'avait embellie merveilleusement. Ses enfants étaient superbes. Elle allaitait le dernier avec ostentation, elle montrait l'aîné avec orgueil. Tonino les aimait avec une sorte de férocité. On eût dit qu'en les couvrant de caresses, il était prêt à les dévorer. Je vis que, devant Félicie, il se retenait de les embrasser. Elle était mortellement jalouse de la maternité de Vanina. Elle comblait ses petits de soins et de présents. Elle évitait de les regarder et ne leur donnait jamais un baiser. Tonino aimait-il sa femme? Pauvre misérable Félicie! Vanina seule était aimée, aimée réellement avec les sens et avec le cœur. Elle était trompée pourtant. Mais cette âpre jouissance de perversité n'eût pas suffi à l'âme avide et inquiète de Tonino. Ou bien l'ivresse du mal était épuisée, et déjà Félicie en était à la jalousie qui persécute et importune. Juste châtiment, dont j'eus à rougir pour elle, et dont elle ne sut pas me cacher l'amertume. Je ne cherchais plus aucune occasion précise de confirmer par le fait ces révélations de tous les instants. J'étais sûre qu'elle se présenterait d'elle-même par la force des choses. Elle se présenta. Nous revenions justement de chez Tonino un soir d'été. Le soleil était encore chaud et nous prîmes à travers bois. Tonino nous accompagnait. Il voulait nous reconduire jusqu'à mi-chemin, ayant, disait-il, quelqu'un à voir au chalet de Sixte Mort. Ces refuges à troupeaux étaient situés à une petite distance de la gorge rocheuse où j'avais failli surprendre leur dernier rendez-vous. Il y avait de cela 15 jours. Félicie parlait affaires avec son cousin. Sur le chapitre de l'élevage et du commerce des animaux, ils avaient de fréquentes discussions. Tonino entendait fort bien ses intérêts. Cet artiste contemplatif, à qui Jean Morgeron avait tant reproché autrefois de vivre dans les nuages, de ne pas aimer le travail et de n'être bon qu'à rêver aux étoiles en écoutant ruminer les vaches sur la litière des chalets, était devenu un trafiquant des plus actifs et des plus retors. Chaque année, il augmentait son cheptel et ses profits. Son rêve était d'acheter dans peu un terrain à mi-côte et d'y bâtir une espèce de castel. Il prétendait reprendre alors son vrai nom, Del Monte, son titre même, et par anticipation, il appelait en riant sa femme la Contessina, et son fils aîné, il Baronino. Félicie blâmait ses ambitions, dont il avait plaisanté longtemps, mais dont il commençait à laisser voir la sérieuse préoccupation. Elle lui disait que la vanité le perdrait, qu'il entreprenait trop, qu'il aspirait à sa ruine. Et elle ajoutait, avec une ironie bien significative, que le pays se moquerait toujours de la comtesse Vanina, élevée à l'hôpital et prise par son mari à la queue des chèvres, qu'elle était alors bien heureuse de garder pour 10 écus par an. Je ne me mêlais pas de leur conversation. Je feignais de m'être pris depuis quelque temps d'un grand amour pour l'histoire naturelle, et j'allais un peu en zigzag, tantôt derrière eux, tantôt à côté, ramassant une chose ou l'autre. Mais je ne perdais ni un mot ni un regard. Je découvris bientôt qu'au fond de leur dispute, il y avait, de la part de Tonino, quelque chose d'assez abject. Il exploitait l'amour ou la crainte de Félicie. Il voulait qu'elle plaçât dans ses mains, sous forme d'association, une somme qu'elle lui avait prêtée l'année précédente. Félicie n'insistait pas pour qu'elle lui fût rendue prochainement. Elle lui donnait plusieurs années pour s'acquitter. Elle n'exprimait pas même la crainte que Tonino, par ses entreprises téméraires, ne se rendît insolvable. Mais elle refusait de participer à ses profits et pertes, disant qu'elle ne voulait pas encourager ses folies, et qu'elle comptait le tenir par la nécessité de restituer ce qu'il avait emprunté à elle et aux autres. Ils furent un moment très irrités. « Vous me traitez comme vous traitiez le pauvre Jean, » disait Tonino. « Vous l'avez assez fait d'années, j'espère, avec vos moqueries et vos critiques. Vous lui reprochiez tout, à lui qui ne vous avait jamais rien reproché. » Ce mot entra comme un poignard dans le cœur de Félicie. Tonino était jaloux du passé maintenant, ou il feignait de l'être. Cette faute ancienne, cette tâche indélébile, ma généreuse équité avait cru l'effacer à jamais. Tonino la faisait reparaître, comme cette marque à l'épaule des forçats qu'on ravive en frappant dessus. Le frère et l'époux avaient pardonné, oublié même. Eux qui portaient la peine et la honte de cette tâche, ils l'avaient acceptée. Et il avait fallu à cette femme, vraiment ingrate, un amant pour la lui reprocher. Je vis son sein se gonfler et ses yeux se remplir de larmes brûlantes qu'elle laissa couler sur ses joues sans les essuyer, craignant de se trahir vis-à-vis de moi. Elle garda le silence, je m'éloignai à dessein. Je me perdis dans un buisson, feignant d'y poursuivre une couleuvre. Je vis alors Tonino se rapprocher de sa complice, lui prendre la main malgré elle, lui demander pardon par son attitude. Mais quel pardon humiliant pour elle! C'est vraiment lui qui faisait grâce et qui lui accordait comme une faveur une caresse furtive. Quand je les rejoignis, elle boudait toujours. Je leur demandais de passer près des rochers où j'avais cueilli certains saxifrages 15 jours auparavant, et je feignis de ne pas bien me rappeler l'endroit. Je surpris un certain effroi dans les mouvements de Félicie. Tonino, parfaitement tranquille, escalada le roc, cueillit les plantes et me les rapporta. Pendant qu'il me rendait avec grâce ce service empressé, j'avais saisi un détail d'une grande importance. J'étais sur le sentier avec Félicie, assise sur une pierre. Je m'étais éloigné un peu, et sans en avoir l'air, je voyais son visage d'assez près, sans que rien pût m'échapper dans les mouvements de Tonino. Quand il redescendit, il passa près d'une fissure peu visible que j'avais pourtant remarquée déjà, sans croire qu'elle pût ouvrir à la grotte une entrée plus facile que la crevasse supérieure. Quand il fut là, il s'arrêta un instant, et je vis Félicie se lever instinctivement, irritée ou effrayée de l'imprudence, ou, pour mieux parler, de l'impudence de son amant. Ils échangèrent quelques œillades rapides de ces regards qui résument par leur éloquence sensuelle toute une scène, tout un drame de passion surexcitée. Les yeux de Tonino disaient « Là !» Puis ils cherchèrent à l'horizon le point opposé à celui où le soleil allait disparaître, et ils formulèrent ce commandement triomphal. « Demain matin, réjouis-toi !» Les yeux de Félicie répondirent d'abord « Non, je te hais !» Un sourire de Tonino reprit « Prends garde que je ne te prenne au mot !» Elle rougit. Ses yeux baissés parlèrent encore plus clairement. Il disait « Je suis lâche, je viendrai. » Il me remit les fleurs qu'il avait cueillies en me disant « Elles sont en graines à présent, vous ne pourrez plus les étudier. » En botaniste, j'aurais dû répondre que c'est ainsi précisément que je les voulais. Mais je répondis « Au fait, les voilà passées. J'en ai vu de semblables, moins avancées, du côté de la quille. J'irai voir demain matin si elles sont ouvertes. » Et, demandant pardon à Tonino de la peine inutile que je lui avais laissé prendre, je posai les plantes sur le rocher, comme si je n'y tenais pas et les oubliais. C'était promettre de ne plus venir les étudier au lieu où nous étions. Ils furent contents de moi, ces charmants amis de mon cœur. Ils se regardèrent encore à la dérobée. Les yeux de Tonino dirent encore ceci. « Le mari ne nous gênera pas, la fête sera belle. » Et les yeux de Félicie dirent de leur côté. « Les joies dont tu vas m'enivrer effaceront le mal que tu m'as fait ce soir. » Il y eut aussi un muet colloque de ce genre, au moment où Tonino nous quitta. Il lui recommandait d'être tendre avec moi, et elle passa aussitôt sa main sous mon bras, afin de me faire croire qu'elle était heureuse de se retrouver en tête-à-tête avec son cher mari. Nous allions rentrer encore une fois à la maison, comme une paire d'amoureux. Elle n'osa pas le dire, mais la convulsive pression de sa main osa l'exprimer.